sacrée, sacrée musique.
Les plus belles œuvres inspirées par la foi.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Franz Schubert est l'un des météores de la musique. Il naquit à Vienne en 1797 et mourut dans cette même ville, sans même avoir atteint ses 32 ans. Et pourtant, il laisse une œuvre immense. 9 symphonies, plus de 20 sonates et une multitude d'œuvres diverses pour piano, 15 quatuors à cordes et de la musique de chambre, et surtout plus de 600 lieders, qui font de lui le maître incontesté de la mélodie allemande. Mentionnons encore une quinzaine d'opéras et 11 œuvres de musique sacrée, dont 6 messes. Franz Schubert était le 12e enfant d'un instituteur. Il était censé le devenir également, mais son génie musical se manifesta très vite, plus encore pour la composition que pour la pratique des instruments. Il entra donc dans une école qui dispensait à la fois un enseignement classique et formait des jeunes musiciens, un établissement d'élite appelé le Konvikt. Les élèves formaient un orchestre, et c'est donc par ses condisciples que Schubert put entendre ses premières symphonies et ses premiers quatuors à cordes. Schubert eut comme professeur Antonio Salieri, à qui l'histoire de la musique a fait une réputation détestable de rivalité meurtrière à l'égard de Mozart. C'est complètement faux. Au contraire, Salieri admirait Mozart et s'est efforcé de faire connaître sa musique. Salieri, en dépit de sa position officielle, était totalement dépourvu de génie, mais il était un artisan chevronné et sut transmettre à Schubert le bagage dont celui-ci avait besoin. En apparence, la musique de Schubert ressemble à celle de Mozart, de Haydn, puis de Beethoven. Mais en réalité, il avait une approche totalement personnelle et originale. Schubert donnait une primauté absolue à la mélodie et à l'expression mélodique. Il n'est pas un architecte de la musique. Ses œuvres ne sont pas des édifices comme celles de Beethoven. Ses morceaux sont plutôt des promenades, parfois presque au hasard, et ses belles mélodies sont comme les visages des personnages que Schubert entraîne dans sa déambulation. Il était dépourvu d'ambition et extrêmement timide. Il ne se sentait en confiance qu'avec un petit cercle d'amis. Ils organisaient ensemble des soirées poétiques et musicales que Schubert animait du piano et à qui la postérité donnera le nom de Schubertiade. Schubert avait une foi spontanée et dépourvue de doutes métaphysiques. C'est donc tout naturellement qu'il se consacra à la musique religieuse. Attention, l'évocation de Schubert et de la musique religieuse fait immédiatement penser à son célèbre Ave Maria. Ce n'est pourtant pas la mise en musique d'une prière. Il s'agit d'une mélodie sur un poème de Walter Scott, la plainte d'une jeune mère qui vient de perdre son enfant. Venons-en aux messes composées par Schubert. Elles sont taillées sur le modèle des grandes messes dont Mozart et Haydn avaient donné l'exemple. Orchestre, orgue, chœurs et chanteurs solistes. Intéressons-nous aujourd'hui à la messe numéro 5, en la bémol majeur. Elle est datée de 1822, l'année de la symphonie inachevée, l'un des chefs-d'œuvre de Schubert et de l'histoire de la symphonie. Schubert avait cependant entamé la composition de sa messe dès 1819, et il la révisa encore en 1825. C'est dire s'il y tenait et si la partition est soignée. Son style personnel y atteint sa plénitude. Curieusement, nous ne savons pas quels motifs poussèrent Schubert à la composer. Elle ne résulte pas d'une commande, et Schubert se heurta à un refus en la proposant à la chapelle impériale. Autre élément étonnant, cette messe est strictement contemporaine, de la monumentale Missa Solemnis de Beethoven. La messe en la bémol de Schubert dure une cinquantaine de minutes. Nous en écouterons les deux premiers morceaux, le Kyrie et le Gloria. Nous entendrons les chœurs et orchestres du sud de Tyrol sous la direction de Klaus Scherrer. Voici d'abord le Kyrie. Sa fluidité mélodique est typique de Schubert. Il fait entrer les solistes sur les paroles Christe et Leison. L'orchestration est légère, avec un fréquent recours aux instruments avant, en particulier la clarinette.
Thank you.
Voici maintenant le Gloria. Contrairement à beaucoup de musiciens qui décomposent ce long texte en différentes pièces, Schubert maintient un morceau d'un seul tenant, de près d'un quart d'heure. Néanmoins, il organise différentes séquences, dont les caractères variés suivent les inflexions suggérées par les paroles. Le premier vers, Gloria Deo, affiche un caractère triomphal, assez rare chez Schubert. Il mobilise des trompettes, des trombones et des timbales pour obtenir l'éclat nécessaire. Les violons exultent par des gammes rapides en double croche. Le climat devient plus paisible pour évoquer la paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Puis Schubert réduit encore son effectif aux cordes et à une chanteuse soliste pour rendre grâce. Il retrouve une musique énergique pour évoquer la toute-puissance de Dieu et fait ensuite dériver la musique vers une tonalité mineure pour illustrer le poids du péché du monde. Et Schubert retrouve pour finir l'éclat du début. Il propose de longues vocalises du chœur sur « Amen ». À nouveau, tout l'orchestre est mobilisé. Voici ce Gloria, toujours par les mêmes interprètes. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.